Chapitre 15. Agnès paraît devoir gagner au changement de tente. Nous revenons à Mistress Barnabé. Se réveiller avec le sentiment d'un bonheur nouveau avec lequel on n'est pas encore familiarisé est certainement une des plus délicieuses sensations qui nous soit donnée d'éprouver sur cette terre. Il était tard quand Agnès avait fermé les yeux et il était tard aussi lorsqu'elle les rouvrit, car Peggy avait déjà tiré les rideaux. Le brillant effet des élégantes draperies et des grands miroirs qui décoraient la chambre furent l'objet de son premier coup d'œil et lui fit croire pendant une seconde qu'elle rêvait encore. Mais peu à peu, toute la délicieuse réalité se fit jour dans son esprit. Où était ce vide, cette solitude de cœur avec lesquelles elle était habituée à voir commencer et finir ses journées? Où était cette terreur, sans cesse renouvelée, de voir sa protectrice s'exposer à quelque scandale nouveau? Où était cet avenir désespéré, à la pensée duquel elle avait tant de fois tremblé et pleuré? Était-il bien possible qu'elle fût la même Agnès Willoughby qui s'était éveillée, il n'y avait pas plus de 24 heures, avec le cœur si navré? Malgré les fatigues variées de la veille, non seulement Miss Compton était déjà dans le salon, mais, de plus, sa missive à Lady Elizabeth Norris était écrite sur la troisième page d'une feuille de papier à lettres, car elle avait voulu laisser à Agnès l'occasion d'expliquer tout ce qui s'était passé avant que ces lignes, à elle, vinssent sous les yeux de sa seigneurie. « Agnès, dit Miss Compton, la voiture sera ici à midi pour nous mener à ce que nos guides appellent la cité, comme si c'était la cité des cités. » J'ai idée que vous êtes aussi ignorante que moi-même à son endroit, puisque vous n'avez jamais fait cette agréable excursion dont la douairière Barnabé vous avait donné le plan d'une manière si sensée. Ainsi donc, nous irons voir cela, nous deux. Seulement, il faut que notre lettre en partie double soit prête auparavant. Voici ma parfaite, lisez-la-moi, et si elle a votre approbation, asseyez-vous. Il faut que la vôtre précède la mienne. » Les lignes écrites par Miss Compton contenaient ce qui suit. Madame, permettez à une étrangère, qui par les liens du sang tient de très près à Agnès Willoughby, de vous envoyer l'expression de sa plus vive gratitude pour les bontés que vous avez montrées à cet enfant dans un moment où elle en a eu un aussi grand besoin. La pensée qu'elle a réellement éprouvé ce besoin sera pour moi un reproche éternel. Il me faut pourtant faire valoir que ces mêmes dispositions du caractère de notre commune parente, Mistress Barnabé, qui ont causé le malheur d'Agnès, ont été pour moi la cause d'une aversion telle que je me suis tenue à une distance telle qu'il ne m'a plus été possible de m'apercevoir des conséquences que ces dispositions pouvaient avoir pour la bonne renommée et le bonheur d'Agnès. Je suis, madame, votre reconnaissante et obéissante servante, Elizabeth Compton. Agnès écrivit à son tour. Mes bonnes, mes généreuses amies, Lady Elizabeth, Lady Stephenson, je vous écris comme jamais je n'avais osé pouvoir espérer le faire, sous les yeux, sous la protection de ma chère tante Compton. C'est à elle que je dois le peu que je sais, et j'ajouterai tout ce que j'ai connu de bonheur. Car je n'ai jamais eu d'autre intérieur où j'ai été heureuse que celui de ma bien-aimée institutrice, Mistress Wilmot, chez laquelle ma tante m'avait placée. Depuis que j'ai quitté la maison de Mistress Wilmot, si ma position, comme vous ne le savez que trop, vous, mes bonnes amies, a été d'une respectabilité douteuse, mon malheur, lui, n'a été que trop certain. Ma tante Compton s'en accuse. Et pourtant, si je ne suis jamais assez heureuse pour vous la faire connaître, c'est à moi que vous vous en prendrez. Ses premières bontés pour moi auraient certainement dû me donner la hardiesse de m'adresser à elle depuis longtemps. Mais, grâce à Dieu, tout ce malheur est passé. Je me suis enfin décidée à lui écrire, et il en est résulté que moi, la pauvre fille misérable, sans espérance, sans amis, je parle du temps où vous m'avez vue pour la première fois, j'ai été changée en l'une des créatures les plus heureuses du globe entier. J'ai passé par des scènes dont le souvenir me fera toujours trembler avec douleur, mais j'ai eu aussi d'heureux moments. Il y a dans ma petite histoire des incidents qui m'ont laissé une impression mille fois plus profonde que celle qu'ils auraient pu faire sur un cœur étranger à l'adversité. Et ne dois-je pas compter à jamais, parmi les meilleures sources de mon bonheur, cette estime que vous m'avez témoignée alors que tout le monde se serait détourné de moi, estime qui ne cessera jamais d'être mon bien le plus précieux, la chose dont je me glorifierai toujours avec le plus d'orgueil. Généreuses amies, maintenant que la tristesse est passée, puis-je espérer que vous me garderez cette affection accordée au moment du chagrin? Puis-je espérer nous rencontrer encore et avoir le grand bonheur de vous faire connaître ma chère tante? Elle est si bonne qu'elle serait toute disposée de me conduire à Cheltenham, mais je crains trop le souvenir qu'ont dû laisser dans la mémoire des habitants les aventures de la pauvre mistress Barnabé pour désirer revenir en cet endroit. Quand Agnès en fut là, elle s'arrêta. « Où leur dirais-je que nous allons nous fixer, tante Betsy ?» dit-elle. « Si... le colonel Hubert... » Et elle s'arrêta de nouveau. « Eh bien, Agnès, si le colonel Hubert... » « Si le colonel Hubert avait le désir de nous faire une visite, tante Betsy, je ne puis m'empêcher de croire que je me ferais mieux comprendre de lui actuellement que lorsque j'étais écrasée par le sentiment de la position désespérée dans laquelle je me trouvais. Ne le croyez-vous pas aussi ?»« C'est très probable, en effet, ma chère. Quant à l'endroit où nous allons, c'est à vous de le décider. Nous sommes parfaitement d'accord pour ne pas aller à Cheltenham. Où aimeriez-vous aller ?» À Clifton, tante Betsy, c'est là que je l'ai vue pour la première fois et c'est là aussi que j'ai reçu des preuves d'attachement de la part d'amis qui, je le crois, avaient pitié de moi parce que je n'avais peut-être pas l'air très heureuse. Oh, c'est à Clifton que j'aimerais aller, de préférence à tout autre endroit, excepté Hampton. Nous irons donc à Clifton, cher enfant. Vous pouvez l'annoncer à vos bonnes amies. Pour toute réponse, Agnès tourna autour de la table et vint déposer un baiser sur le front de l'heureuse tante, puis, se remettant à écrire, elle conclut ainsi sa lettre. Aussitôt que ma tante Compton aura terminé les affaires qu'elle a à Londres, elle ira à Clifton, où nous resterons probablement quelques mois. Et s'il se trouvait là, par hasard, quelqu'un de votre famille, j'aurais peut-être le bonheur de le rencontrer. Pleine de reconnaissance pour vous tous, je demeure à jamais votre dévouée et bien affectionnée, Agnès Willoughby. Pauvre Agnès, elle était bien mécontente de sa lettre, car malgré tous ses innocents artifices, aucune de ses généralités ne disait clairement combien elle désirait que le colonel Hubert revînt lui offrir sa main. Cependant, que pouvait-elle dire de plus ? Elle s'assit, les yeux fixés sur le papier, le front chargé de préoccupations. « À quoi ma petite fille pense-t-elle ? » dit Miss Compton. « Hélas, reprit Agnès en secouant la tête, je pense, tante Betsy, que jamais le colonel Hubert ne comprendra par cette lettre combien je désire le revoir. » « Ceci est parfaitement vrai, ma chère. » Y aurait-il donc quelque autre chose que je pourrais dire pour lui faire comprendre à quel point il s'est trompé quand il a cru que je disais non, faute d'amour pour lui ? Oh oui, ma chère, certainement. Dites-le-moi alors, oh ma chère, chère tante, il me semble impossible de trouver un mot. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez dire, entre autres, par exemple, dites à mon bien-aimé, le colonel Hubert, « Oh, tante Betsy, tante Betsy, vous vous moquez de moi !» s'écria très gravement Agnès en la regardant d'un air de triste reproche. « Voilà comme je suis, ma chère enfant, une vieille fille qui a 3 fois 20 ans n'est qu'une piètre confidente en pareille matière. Non, mais sérieusement, si vous voulez avoir mon avis, le voici. Que votre lettre parte telle qu'elle est, sans y rien changer, sans y rien ajouter. » Si le colonel Hubert la voit, comme vous semblez vous y attendre, et qu'il vous aime comme vous méritez de l'être, il trouvera dans son contenu de quoi alimenter ses espérances, de façon à le faire courir, tout au moins d'un bout du Gloucestershire à l'autre. S'il ne la voit pas, ce n'est pas ce que vous y mettrez qui changera les choses. Et si, la voyant, il demeure tranquille avec votre refus, alors il ne faudra plus songer à lui. » Agnès ne dit plus rien. Elle plia sa lettre et l'adressa à Lady Elizabeth Norris à Cheltenham. « Maintenant, ma tante, j'en ai fini avec le colonel Hubert, jusqu'à ce qu'il veuille bien faire de lui-même une nouvelle démarche. Je ne vous ennuierai plus de lui. Faut-il mettre mon chapeau? Il y a déjà quelque temps que la voiture attend. » « Mon Agnès chérie, s'écria la vieille dame en la regardant avec tendresse, combien je méritais peu de vous trouver si complètement identique à ce que je désirais que vous fussiez. Vous avez raison, nous ne parlerons plus de ce colonel jusqu'à ce qu'il ait déclaré lui-même quel est le rôle qu'il veut jouer dans le drame qui se déroule devant nous. Nous ne manquerons pas de sujets de conversation. Notre maison, notre équipage, nos toilettes, car il faut vous décider à tout cela, chercher des modèles, enfin pourvoir à tout. Apprêtez-vous, ma chérie. Plus tôt nous en aurons fini avec les affaires, plus vite nous partirons pour Clifton. » Un sourire de bonheur fit paraître les jolies fossettes des joues d'Agnès. Elle courut s'habiller, et quelques minutes après, les deux dames étaient sur le chemin de la cité. « Comment se fait-il que vous portiez un deuil aussi sévère, cher enfant ?» dit Miss Compton, les yeux fixés sur l'éternel chapeau de crêpe noir de sa compagne. « Serait-ce donc toujours pour le digne pharmacien de Silverton ? Mais c'est impossible, j'y pense maintenant, puisque sa charmante veuve est toute couverte des couleurs de l'arc-en-ciel. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire, Agnès ?» Agnès regardait par la fenêtre de la voiture pour cacher un sourire. Mais retrouvant son sang-froid, elle répondit « Je n'ai jamais quitté le deuil depuis la mort de M. Barnabé, ma tante. Il y avait tant de vêtements de deuil qui n'avaient pas été usés, et cela m'était si indifférent. »« Oh, c'est monstrueux !» interrompit Miss Compton. « Je comprends tout. Tandis qu'elle se pavanait comme un papillon teint, elle jetait sur vos épaules, ma jolie Agnès, sa peau de chrysalide pour que vous la portiez en son lieu et place. » « N'est-ce pas cela ?»« Oh non, ma tante Barnabé aime beaucoup la toilette. Elle déteste le noir, et alors ?»« Et alors vous étiez là, vous, pour le porter à sa place. Eh bien, Agnès, vous pouvez bien vous permettre d'appeler cela un fameux péché, sans craindre de lui faire du tort. Que Dieu lui pardonne. Mais je vous en prie, laissez-vous aller à me conter un peu sa manière d'être avec vous. » Ne vous a-t-elle jamais demandé aussi de porter son bonnet de veuve, ma chère? Cela aurait pu lui épargner tout au moins la dépense de vous acheter des bonnets de nuit. » C'était presque de la cruauté de la part d'Agnès de dérober à la causticité de sa tante célibataire les nombreux traits caractéristiques de l'égoïsme mesquin de sa tante veuve. Mais cette façon d'agir était tellement dans sa nature que, malgré le tendre désir qu'elle éprouvait d'amuser sa tante Betsy en donnant carrière à son humeur mordante, elle ne pouvait se décider à l'y encourager. Aussi, peu à peu, dans leurs entretiens, toutes les allusions à la veuve Barnabé finirent-elles par tomber. Et si, de temps à autre, en parlant du passé, il surgissait quelques preuves des originalités de la veuve, la vieille fille, bien dressée, apprenait à s'en réjouir en silence. Et il ne faudrait pas croire pour cela que la privation imposée par sa nièce diminua l'affection qu'elle ressentait pour elle. Quand on songe à quel point notre vieille recluse était novice en tout ce qui concernait la vaste Babylone, on s'étonne avec quel tact elle sut se tirer de tous ses tracas. Grâce à l'intelligent William, elle parvint à manœuvrer parfaitement dans Londres. Son premier soin fut d'aller à la banque où elle réalisa la somme nécessaire à ses projets. Avant tout, il fallait s'occuper de la toilette d'Agnès. Mais celle-ci aussi était tellement novice à cet endroit qu'elle déclina cette responsabilité et il fallut que la vieille fille s'en mêlât, car le crêpe et la lépine dont sa petite nièce était couverte lui faisaient horreur. « Je m'étais bien attendue à avoir des occupations très variées et très nouvelles, disait-elle, mais j'avoue que je ne m'imaginais pas devoir être chargée du choix de la garde-robe d'une jeune personne élégante. Cependant, ma chère, je ne me refuserai pas à vous montrer que mes études m'avaient préparée aussi à ce sujet. Il n'y a rien de tel, croyez-le bien, que l'amour des romans pour enseigner les manières du monde à une recluse solitaire. » « Vous allez voir comme je vais dépenser cet argent avec intelligence, Agnès. Mais ne détournez pas la tête et ne pensez pas à autre chose quand je vous parle. Parce que, voyez-vous, il est de toute nécessité qu'une jeune personne, qui possède 1500 livres sterling de rente, soit en état de savoir s'acheter un chapeau neuf et une robe neuve. Enfin, grâce aux puissances, réunies par Miss Compton de l'argent et du savoir-faire, cette dame arriva au bout d'une quinzaine à opérer dans les vêtements d'Agnès un changement aussi capital que le fut jadis celui de Cendrillon par les soins de sa marraine. Elle ne négligea pas non plus sa garde-robe à elle. Elle ne voulait pas que la rustique simplicité de la vieille tante restée fille valût autant de regards à Agnès que les éclatantes toilettes de la tante restée veuve lui en avaient attiré, et elle se montra aussi sensée en prenant pour elle des satins et des velours noirs qu'en choisissant pour sa ravissante nièce les choses les plus saillantes et les plus recherchées. Certainement, jamais vieille dame ne fut complètement heureuse que l'excentrique, l'orgueilleuse, la sensible tante Betsy, quand, une bourse bien remplie à la main, elle se faisait conduire à travers les rues de Londres, choisissant, ordonnant tout ce qu'elle jugeait devoir convenir à sa jeune héritière. À la vérité, il fallut renoncer à lui faire construire une voiture, on n'avait pas le temps. Mais William, l'infatigable William, fouilla Longacre depuis un bout jusqu'à l'autre et finit par découvrir un équipage aussi parfait que s'il avait été fait exprès. Sur cet équipage, Miss Compton, qui était fort savante en sciences héraldiques, fit peindre en miniature son losange. C'était tout ce qu'il fallait pour compléter le joli équipage et de cette façon, il n'y eut pas de retard. Agnès avait écrit à Miss Peters tous les bonheurs inattendus qui lui étaient arrivés. Marie connaissait déjà le nom de Miss Compton de Compton Bassett, et avec elle, il n'y avait pas à craindre de paraître faire de l'embarras en révélant à quel point la position de sa jeune amie était changée. Ce fut elle et son excellente mère qu'Agnès pria de leur chercher des appartements, et ceci fut si habilement mené que, précisément 18 jours après que le colonel Hubert avait laissé Agnès si misérable et si seule dans le triste logement de Mrs. Barnabé à Londres, la jeune fille était installée dans un bel appartement bien aéré sur la promenade de Clifton, entourée de tout le bien-être élégant que pouvait s'ingénier l'affection la plus vigilante afin de rendre le contraste encore plus frappant. Ce fut avec un bonheur, d'une intensité égale à celle du chagrin avec lequel elle leur avait dit adieu, qu'Agnès retrouva les bonnes amies qui avaient conçu pour elle, alors même qu'elle était présentée par Mrs. Barnabé, une si vive affection. Et la réception que ces dames firent à sa généreuse tante, suivie bientôt d'une mutuelle entente cordiale, fit tout ce que le destin et la fortune peuvent faire pour réparer les souffrances endurées depuis leur séparation. On pensera peut-être que Mrs. Barnabé, humiliée et convaincue qu'elle était persécutée, avait suffisamment goûté de la prison pour avoir perdu tout désir d'y retourner. Mais, quoique toutes les probabilités fussent réunies pour que cette opinion fût parfaitement sensée, elle n'en était pas moins fausse, car la veuve ne fut pas plutôt revenue de l'accès de rage où l'avait mise la triomphante sortie de Miss Compton, qu'elle se jeta sur son canapé solitaire pour se livrer au monologue suivant, qui lui traversa la cervelle sans qu'elle en articulât un mot. Il faut dire qu'elle n'avait pour toute compagnie, pour toute consolation, qu'une tasse de thé mitigée d'une larme d'un lait bleu de ciel. Voici donc où j'en suis. Après avoir essayé pendant 6 mois du système des voyages, après avoir fait une multitude d'expériences dans la société à la mode, je me suis appauvri positivement de 700 livres sterling et n'ai pas avancé d'un seul pouce vers un second mariage. Ça ne peut pas aller comme cela. Ma jeunesse, ma beauté, ma fortune, tout aura fondu, tout aura disparu avant d'avoir obtenu un résultat si je ne change pas mes batteries. Ici, Mrs. Barnabé, après avoir bu à petites gorgées son misérable thé, ouvrit la boîte à ouvrage qu'elle avait été contrainte de quitter en si grande hâte, s'assurant que pendant son absence, le délicieux col qu'elle brodait n'avait souffert aucune avarie. Elle reprit ses méditations. Hélas, que c'est donc triste de rester ainsi assise, toute seule, absolument seule. Il valait encore mieux avoir à regarder cette propre à rien, cette sotte, cette ingrate Agnès, que rien du tout. Et même dans cette horrible prison, il y avait un certain plaisir à savoir qu'on pouvait rencontrer dans les corridors, de temps à autre, un homme élégant et intéressant, dont les yeux disaient assez clairement ce qu'il pensait de moi. Pauvre garçon, ce n'est pas une raison parce qu'il est dans le malheur pour qu'un esprit généreux lui veuille du mal. Quel air il avait quand il m'a dit « Adieu donc, madame, avec vous s'évanouit le dernier rayon de soleil qui pourra jamais atteindre mon cœur. » Et je suis sûre qu'il n'a dit que juste ce qu'il ressentait. Pauvre O'Donoghue, mon cœur saigne en pensant à lui. Et elle tomba dans un état d'esprit vraiment fort enclin à la pitié et fort sentimental. En ce moment, son cœur appartenait tout entier à la compassion, au sentiment profondément senti d'une âme chrétienne, et avant d'aller se mettre au lit, elle s'était persuadée que puisqu'elle était sortie de ses embarras personnels, il était de son devoir, comme fidèle croyante, de retourner à Fleet Prison, voir si elle ne pourrait pas, avant de quitter Londres, faire quelque chose pour M. O'Donoghue. Rien ne pouvait tendre plus sûrement à adoucir l'état du cœur de la veuve que cette douce et pieuse résolution. Ayant donc décidé qu'elle irait le lendemain matin demander à voir M. O'Donoghue, Mrs. Barnabé dormit comme un sabot. Toutefois, ce ne fut pas sans avoir subi quelques luttes avec un sentiment que plusieurs qualifieraient de honte qu'elle se mit en route pour son aventureuse expédition le lendemain matin. À ses yeux, ce sentiment n'était que de l'orgueil et elle s'était jurée de le dompter. « Non, se disait-elle, rien, rien au monde, si ce n'est la conviction que c'est mon devoir, n'aurait pu me faire faire une pareille démarche. » Le choix de la toilette qui convenait en pareille occurrence n'était pas non plus une petite affaire. Il est assez difficile à une femme du monde de se faire conduire à Fleet Prison et de demander à voir un homme comme M. O'Donoghue. Il est à la fois trop beau et trop jeune pour que ce ne soit pas inconvenant. Mais bah, que me fait ce que diront les gens? Je vais mettre mon chapeau rose et noir avec mon voile de Bruxelles. Cela cachera mes boucles et me donnera l'air plus âgé. C'est donc enveloppé d'un épais voile de dentelle et d'un vaste manteau de soie qui dissimulait les gracieuses élégances de sa toilette du matin que Mrs. Barnabé se présenta aux portes qu'elle avait franchies depuis si peu d'heures et d'une voix grave, elle dit au concierge « Je voudrais voir M. O'Donoghue. » Le bonhomme sourit en la regardant et répondit « Bien, madame, entrez, s'il vous plaît. Vous trouverez plus loin des gens pour vous conduire. » Après avoir distribué quelques pièces de monnaie, Mrs. Barnabé s'arrêta devant une porte qui, elle le savait bien, conduisait à la retraite de l'élégant et désolé O'Donoghue. On ouvrit la porte toute grande, mais restant sur le seuil, elle pria son interlocuteur de faire passer sa carte. On entendit alors la voix de l'hôte solitaire qui disait de l'accent le plus doux et le plus mélancolique « C'est vraiment d'une bonté digne d'un ange. Priez-la d'entrer. » Et elle entra, et l'on referma immédiatement sur elle la porte de la chambre. M. O'Donoghue était un fort bel homme d'environ 30 ans, doté d'une physionomie qui eût embarrassé le docteur Combe lui-même. Car sur cette physionomie, l'impression présente effaçait si bien celle du passé qu'il était fort difficile de dire clairement à quelle sorte d'homme il appartenait. Mais les pouvoirs de l'historien étant plus étendus, c'est lui qui nous donnera son rapport. M. Patrick O'Donoghue n'était qu'à demi bien né. C'était un métis de la noble race que dénotait son nom. Il était le fils naturel d'un Anglais de grande fortune et d'une pauvre fille irlandaise appelée Nora O'Donoghue. Et quoique son père eût fait pour lui ce que bien des gens eussent considéré comme beaucoup, il ne lui avait jamais permis de porter son nom. Le jeune O'Donoghue avait été placé comme clerc chez un des magistrats de la police de la métropole et y avait fait preuve d'une grande habileté par la promptitude avec laquelle il s'était acquitté des affaires qu'on lui avait confiées. Son noble père ne le perdait pas de vue. Découvrant en lui de réelles capacités, il se laissa persuader d'employer son crédit à son endroit et lui obtint une position lucrative dans une douane sur la côte où il gagna rapidement quelque argent. À la grande satisfaction de son illustre parent, ceci dura quelques années et il aurait pu se faire une assez jolie fortune s'il n'avait fait la malheureuse connaissance d'un ou deux gentlemen, forts comme il faut, mais hommes de sport enragés. De ce moment, l'étoile O'Donaghue commença à pâlir. Peu à peu, il perdit son argent, sa position, la faveur de son père et enfin sa liberté. Il n'y avait que quelques semaines qu'il était en prison lorsqu'il trouva encore moyen de toucher assez le cœur de son père pour l'amener à payer ses dettes et à lui faire rendre la liberté, à une condition toutefois, c'est-à-dire son départ immédiat pour l'Australie avec 500 livres sterling ainsi que l'intimation formelle de ne jamais en revenir. Il promit et empocha les 500 livres. Mais le jeune homme n'était pas à l'épreuve de la tentation. Il eut l'imprudence de vouloir essayer de jouer, perdit presque ses 500 livres et laissa partir le vaisseau qui devait l'emmener. Ce fut un terrible moment. Quelques personnes lui conseillèrent d'avoir recours à son père encore une fois, mais il pensa qu'il valait mieux n'en rien faire et il s'adressa à un gentleman qu'il avait connu en prison, où le turf et les courses l'avaient plongé lui-même. Ce monsieur, après avoir réussi à faire taire ses créanciers, avait pris le parti de se faire prédicateur dans une congrégation indépendante de fanatiques extravagants. Il gratifia son ex-collègue d'excellents conseils sur la conduite qu'il lui fallait tenir à l'avenir, en l'assurant que, s'il voulait étudier assidûment les principes de la pratique de la profession, il lui donnerait un coup de main pour le faire admettre dans la congrégation. Mais le malheureux O'Donaghue n'en avait pas fini avec ses créanciers. Une vieille dette de 37 livres sterling, 9 shillings et 8 pence, complètement oubliée, le fit revenir à Fleet Prison. Et, au moment où Mrs. Barnabé faisait sa connaissance, il employait son temps à composer des discours sur la puissance surnaturelle qu'exerce sur l'esprit humain les vases d'élection appelés à répandre dans le monde la doctrine de la nouvelle naissance. Il est plus que certain que ces éloquentes compositions se seraient vendues avec rapidité et auraient ainsi atteint le but que se proposait leur habile auteur, mais il n'en put faire l'épreuve car le livre n'était pas arrivé à sa moitié que le jeune prédicateur constatait à son profit un succès d'un tout autre genre. En entrant, Mrs. Barnabé trouva le pauvre prisonnier qu'elle venait visiter avec tant de charité, assis devant un pupitre, entouré de plusieurs feuilles de papier couvertes d'une écriture serrée. Il se leva en la voyant et s'approcha d'elle avec un parfait mélange de déférence respectueuse et d'ardente gratitude. « Puisse le ciel vous récompenser, madame, pour cette preuve bénie de vos sentiments chrétiens. Comment pourrais-je vous dire en termes convenables toute ma reconnaissance ?»« Vous avez parfaitement raison, monsieur O'Donaghue. Je vous l'affirme quand vous dites que je viens à vous uniquement poussé par l'esprit chrétien, » dit Mrs. Barnabé. Et monsieur O'Donaghue était extrêmement beau quand il répondit avec un sourire mélancolique « Hélas, madame, quel autre motif, si ce n'est le désir d'obéir à la volonté du ciel, serait assez puissant pour amener volontairement dans ces terribles murs une personne comme celle que je contemple en cet instant. » « C'est bien vrai, en vérité. Il n'y a rien d'autre au monde qui ait pu me le faire faire. Dieu sait combien j'ai souffert ici moi-même. Mais, monsieur O'Donaghue, voici pourquoi je suis venu. J'ai voulu savoir si je ne pourrais pas vous être de quelque utilité avant de partir pour mes voyages. J'ai l'intention de faire un tour en France et peut-être même d'aller jusqu'à Rome. » La veuve regardait monsieur O'Donaghue dans le blanc des yeux. Elle voulait voir l'effet que produirait sur lui cette nouvelle, car elle s'imaginait que l'abandon dans lequel il se trouvait lui pèserait bien davantage lorsqu'il se sentirait séparé d'elle, non seulement par les murs de Fleet Prison, mais encore par le détroit anglais. L'expression qu'elle lut dans les yeux qu'elle surveillait ne fit qu'augmenter cette pensée. Une mélancolie calme et douce sembla monter du cœur du jeune homme jusqu'à ses yeux, ses fenêtres de l'âme, et de là se répandre sur sa belle visiteuse. En France, à Rome, un profond soupir, et pendant une minute ou deux, le jeune gentleman demeura les yeux tristement fixés sur ceux de sa compagne. Puis, se levant, il s'avança à travers les trois espaces occupés par la table, lui prit la main, et d'une voix douce, grave, qui ressemblait à un sanglot, il dit « Puissiez-vous être heureuse où que vous alliez, mes prières vous suivront, et ma bénédiction, ma tendre, ma fervente bénédiction, planera sur votre tête au moment de votre départ. » Mrs. Barnabé était extrêmement émue.
« Ne parlez pas ainsi, je vous en prie, monsieur O'Donoghue, » dit-elle d'une voix où l'on sentait la proximité des larmes. « Je vous assure que je prierai bien aussi pour vous, si cela peut vous faire quelque bien. »
Et elle tira un des mouchoirs brodés par elle et l'appliqua pour de bon sur ses yeux.
« Si cela peut me faire du bien, Mistress Barnabé !» s'écria le jeune homme avec ferveur. « En douteriez-vous ? Oh, ne doutez pas un instant que je n'en ressente l'influence dans chacun de mes nerfs. Laissez-moi essayer de me faire comprendre, femme sensible. Les effets de la sympathie spirituelle ont été pour moi le sujet de plus d'une étude. Posez votre main sur mon cœur, faites qu'elle y reste un instant, et vous serez en état de comprendre tout ce que je voudrais vous expliquer. Ne bat-il pas sous votre main ce pauvre cœur, Mistress Barnabé? Et croyez-vous qu'il serait ainsi troublé si vous n'aviez pas annoncé que vous prieriez pour moi? Et si, pendant le cours de votre excursion à la Joconde, par Mons et par Vaux, vous vous souvenez du pauvre O'Donoghue, si réellement vous priez pour lui, comment pourriez-vous douter que votre prière ne retombe sur sa tête comme le doux zéphyr de l'aile d'un séraphin, et, même au fond de ce donjon, ne vienne apaiser le tumulte de mon âme? Dites, comment pourriez-vous en douter? Tout cela était dit d'un ton si convaincu et d'un air si tendre que le cœur de Mistress Barnabé se sentit pénétré, et s'il resta dans son esprit, à l'endroit de l'efficacité de ses prières, encore un petit doute, il était bien petit, en admettant qu'il y en eût aucun.
« Oh, alors je prierai pour vous, monsieur O'Donoghue, mais est-ce donc là tout ce que je puis faire pour vous ?» Souvent déjà, M. O'Donoghue avait trouvé dans sa physionomie expressive un puissant auxiliaire. C'est encore ce qui advint en ce moment. Pas une des réponses qu'il eût pu faire en parole n'aurait valu l'effet que produisit le regard avec lequel il reçut cette question. Mistress Barnabé, troublée, émue, ne savait vraiment plus trop que dire, mais M. O'Donoghue savait bien, lui, ce qu'il avait à faire. Il se leva, et élevant ses bras dans toute leur longueur au-dessus de sa tête, il joignit passionnément les mains, tandis que ses beaux yeux étaient en communion avec le plafond, juste assez de temps pour donner à la veuve le loisir de s'apercevoir que le jeune prédicateur était certainement le plus beau garçon du monde. Puis, poussant sa chaise tout auprès d'elle, il lui prit la main, et fixant ses beaux yeux très ardemment sur les siens, « Me faire du bien ?» prononça-t-il d'une voix si douce que, s'il ne l'avait murmurée dans l'oreille de sa compagne, elle eût probablement été perdue pour elle. « Me faire du bien ? Vous demandez si vous pouvez me faire du bien ? Ô terre, ô ciel, soyez témoin de mon serment. Je jure que surprendre sur ce ravissant visage un seul mouvement de pitié en ma faveur ferait plus pour chasser tout chagrin de mon âme que toutes les richesses de Plutus répandues sur ma tête. Dussent-elles m'arriver en lingots d'or, assez pesant pour briser les chaînes qui me lient ?»« Oh, monsieur O'Donoghue !» fut tout ce que put articuler Mistress Barnabé en détournant la tête. Tombant alors à genoux devant elle, il s'empara de ses deux mains, de façon à poursuivre jusqu'au bout son intéressante entreprise, en dépit de tous les efforts de la veuve. Toutefois, cette allusion aux richesses de Plutus les eut bientôt ramenés au but que s'était proposé Mistress Barnabé en revenant à Fleet Prison, c'est-à-dire ce qu'elle pouvait faire pour rendre service au beau jeune homme avant de quitter Londres. Alors l'entreprenant prisonnier, cherchant à deviner sur la belle figure qu'il avait devant lui sans qu'on lui permettrait de dire, se hasarda à laisser entendre que rien n'adoucirait ses chagrins comme de posséder l'amour d'une femme aussi charmante qui lui avait déjà montré une si touchante compassion. De plus, il ajoutait que si elle voulait lui prêter de quoi liquider la méchante dette pour laquelle on l'avait arrêtée, il essaierait d'intéresser son père de nouveau, lui offrant, comme garantie de sa fermeté à venir,
l'honorable attachement qu'il désirait tant contracter dans l'espoir de lui persuader de le mettre encore une fois à même de s'en aller en Australie, car il confessait, ceci le séduisait bien plus que de continuer à écouter la voix qu'il avait appelée à l'apostolat. Malgré la tendre émotion qu'un pareil discours doit inspirer à toute femme qui l'écoute, Mrs. Barnaby garda assez de son sang-froid pour se dire qu'il serait bon de réfléchir avant de s'engager à épouser et à suivre en Australie le séduisant jeune homme qui était à ses pieds. Mais cette précaution n'entama point sa générosité. Elle décida qu'elle lui ferait le prêt en question, et même elle poussa la grandeur jusqu'à arrondir la somme au chiffre de 40 livres sterling, et après lui avoir fait part de cette résolution avec le plus touchant des regards, elle finit par prier M. O'Donoghue de se relever. Ils se séparèrent donc après que la veuve eut promis d'apporter le lendemain la somme nécessaire à son élargissement, et lui, tandis qu'il lui baisait ardemment les mains, déclarait qu'il ne supporterait les effets de cette généreuse bonté que si elle consentait à partager avec lui cette liberté qui ne lui était précieuse qu'à cause d'elle. « Donnez-moi le temps, cher O'Donoghue. Donnez-moi le temps de réfléchir à cette proposition dont je suis toute saisie. À demain. » C'est ainsi qu'elle lui répondit, et après s'être permis un tendre regard, en retour de tous ceux dont il l'enveloppait, elle franchit la porte de la chambre, trop absorbée dans ses espérances, dans ses souhaits, dans ses affaires, pour s'apercevoir des moqueuses grimaces avec lesquelles les nombreux guichetiers saluaient son passage. Il régnait réellement une bien vive sympathie au moment où ils se quittèrent entre notre héroïne et M. O'Donoghue. Voici en quoi elle consistait. Chacun d'eux éprouvait la même résolution bien arrêtée de s'enguérir avec le plus grand soin de leurs positions sociales respectives avant de faire un pas de plus vers le mariage. Car, bien que le gentleman eût parlé de cet état béni avec ravissement et que la dame l'eût écouté avec douceur, ils avaient l'un et l'autre trop d'amour pour eux-mêmes pour s'engager dans un pareil lien sans y avoir mûrement réfléchi.